Voici le projet GraphComp, une recherche qui, de 2007 à 2010, a réuni l'histoire, l'informatique et les mathématiques. À l'origine, un territoire, les quelques hectares de la châtellenie de Castelnau-Montratier, dans le sud du département du Lot, et un fonds d'archives exceptionnel, presque 8000 actes notariés qui s'étendent sur plusieurs siècles et permettent de dessiner la carte d'un réseau de relations dans une population très mal connue, le monde paysan du Moyen-Âge. Plusieurs questions pour les historiens du laboratoire France Méridionale et Espagne de l'Université Toulouse-Le Mirail. Quelle était l'architecture de ce réseau paysan? Comment était-il structuré? Quel y fut l'impact de la peste ou de la guerre de Cent Ans? Et surtout, comment, sans être mathématicien et grand manipulateur de chiffres, comment voir? Comment dessiner la carte de ce réseau et fouiller dans cette montagne de données? Et si la 3D permettait de mieux y chercher? Immersion interactive et visualisation. C'est ici qu'intervient l'équipe Connaissances et décisions du LINA, le laboratoire d'informatique Nantes-Atlantique de l'Université de Nantes. Habitués aux problématiques d'extraction d'informations à partir d'une somme de données importante et complexe, un domaine de recherche très sollicité, les informaticiens du LINA ont cherché à rendre visibles ces données d'archives médiévales et proposer aux historiens des outils pour mieux voir et mieux comprendre cette histoire. Florent Hautefeuille, maître de conférence en archéologie.
Le point de démarrage en fait, du projet, c'était une idée qu'on a eue d'abord avec des mathématiciens, d'essayer de travailler sur des données au Moyen-Âge et sur des données sérielles. On était trois équipes, c'était très intéressant parce qu'on a des approches et des méthodes de travail qui sont évidemment différentes. Moi, je venais d'une approche assez classique en histoire, en archéologie. Il y avait une équipe de mathématiciens et une équipe d'informaticiens. Et quand on discute avec les mathématiciens, évidemment, on arrive à des choses intéressantes, mais eux, ils leur manquent très souvent le bras armé qui nous permet d'avoir une compréhension, qui est la visualisation des données. Hein. C'est-à-dire qu'eux sont capables de travailler de manière totalement abstraite. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour des non-mathématiciens d'arriver à suivre. Donc l'outil de visualisation informatique est, pour nous, a été fondamental dans la compréhension, même ne serait-ce que dans la compréhension interne, hein, quand on discutait sur ce qu'on faisait, sur ce à quoi on voulait arriver, il fallait systématiquement qu'on ait des outils de visualisation. D'abord, il y a eu l'apport de la 3D que nous, on ne connaissait pas, par exemple. Hein.
Nous ne connaissions pas les habitudes des historiens, et donc il a fallu s'adapter à leurs besoins spécifiques.
Pascal Kunz-Kosterek, professeur en informatique à Polytech Nantes et responsable de l'équipe Connaissance et Décision du laboratoire d'informatique Nantes-Atlantique.
Le cœur de nos recherches, c'est l'exploration de données. Donc c'était extrêmement excitant de partir de données réelles, en plus là sur des supports très très différents de ceux sur lesquels on a l'habitude de travailler, donc sur des archives sur lesquelles on avait, nous en tant qu'informaticiens, absolument aucune hypothèse. On n'avait aucune idée de la façon dont les relations sociales pouvaient être structurées. On ne savait absolument pas ce qu'on allait découvrir. Donc c'est très excitant de pouvoir partir de ces données brutes et d'arriver à la fin à des restitutions qui prennent du sens et pour lesquelles effectivement les historiens nous racontent toute une histoire qui les rend intelligibles pour nous.
L'essentiel de la documentation, ce sont des fonds, ce qu'on appelle des fonds seigneuriaux, des archives des seigneurs de ce secteur-là, qui ont été retranscrites au XVIIe et au XVIIIe siècle par des notaires ou des feudistes, des juristes. L'objectif, c'était évidemment pas du tout la recherche historique, c'était de pouvoir repérer toutes les redevances anciennes qui n'étaient plus levées par les seigneurs. Donc ils ont passé en revue toute la documentation disponible et ils ont recopié ou analysé quelque chose qu'on estime au total à presque 8000 actes sur ce petit territoire qui fait, c'est en gros 4 communes actuellement.
Reconnaissance faite par Arnaud de la Fargue de Perne à Bertrande, veuve de Bernard Audouin, comme tutrice de Guillaume et curatrice de Bernard Audouin, d'une pièce de terre au terroir de la Fargue, tenant d'une part avec terre de Raymond Pétran et avec terre de...
La première grande phase du projet a été de numériser ces informations.
Pascal Kunz-Kosterek.
Pour donner une idée de la complexité des données que l'on avait, dans la base actuelle, on a reconstitué de façon numérique les informations correspondant à plusieurs milliers d'actes notariés. Actuellement, il y en a 3000 de rentrée, ce qui correspond à 8000 individus sur un territoire limité à une dizaine de kilomètres carrés, sur une période qui s'étend de 1240 à 1520. 8000 individus, c'est 8000 noms potentiel dans les graphes. Si on regarde le total des liens, des relations sociales représentées par les arêtes, on a plus de 100 000 arêtes. Ces ordres de grandeur sont moins grands que ceux que l'on peut rencontrer si on étudiait un graphe comme Facebook. Néanmoins, ce sont des graphes d'une complexité telle qui demandent des techniques de fouille exploratoire spécifiques pour pouvoir aborder cette échelle-là. C'est poser la question de la modélisation de ces données pour mettre en évidence des systèmes de relations sociales. Pour faire cela, le modèle dont nous avions convenu dès le montage du projet était un modèle qu'on appelle un modèle de graphe, un modèle de réseau qui est le suivant. Un réseau, c'est un objet mathématique assez fascinant parce qu'on peut faire des calculs dessus, appliquer des algorithmes sophistiqués pour aller rechercher de l'information, mais également on peut le visualiser. Et il y a relativement peu d'objets mathématiques qu'on peut visualiser aisément. Un graphe, c'est par définition un couple, une paire, composé d'un ensemble de nœuds reliés par des relations que l'on appelle des arêtes. Dans notre cas, les nœuds représentent les noms d'individus qui apparaissent dans les transactions agraires, stockées dans la base de données. Et puis, deux nœuds, donc deux individus, sont reliés dans le graphe par une arête s'il existe entre eux un certain type de relation sociale. Par exemple, si deux individus apparaissent dans le même contrat agraire. S'ils apparaissent dans le même contrat agraire, on peut en déduire qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont eu une relation sociale. Deux individus dont les parcelles sont voisines se sont vraisemblablement rencontrés. Et on a pu reconstituer un certain nombre de relations de voisinage grâce à cette base de données.
Florent Hautefeuille.
On a essayé d'avoir une documentation quasi exhaustive sur un certain nombre de petits territoires, quelques kilomètres carrés. Et là-dessus, on a une documentation qui laisse penser qu'on a quasiment tous les gens qui ont vécu à certains moments, qui apparaissent. Sur certaines périodes, on a probablement mentionné tous les gens. Personne ne nous échappe.
Par Guillaume d'Esteirac de Flognac. À Raymond de la Pérarède, Damoiseau de Flognac.
Jean Nozé, qui a vécu de 1265 à 1334. Donc ça, c'est quelqu'un qui a vécu assez longtemps.
Fabien Picarougne, maître de conférence en informatique, membre de l'équipe Connaissance et Décision du laboratoire d'informatique Nantes-Atlantique.
On est en 1263, et ce qu'on voit se former en fait devant nous, ce sont des communautés qui, à l'origine, étaient séparées, et petit à petit vont se rapprocher. Ce qui intéresse beaucoup les historiens, c'est de détecter les individus qui sont à l'origine de ces rapprochements. Quel est le premier individu qui a fait la relation entre deux communautés? Dans la visualisation que nous avons produite, nous avons cherché à faire en sorte que les choses soient compréhensibles directement. C'est-à-dire qu'on va chercher à rapprocher dans un même espace géographique les personnes, les nœuds, donc, qui ont beaucoup de relations entre eux. Et au contraire, deux personnes qui ont très peu de relations vont être dans des endroits très éloignés de l'espace visuel de représentation. Ça, c'est quelque chose qui est compréhensible directement, intuitivement. On repère très rapidement les proximités spatiales, en fait. Et donc, on comprend instantanément ces relations. Qui parle avec qui a des échanges avec quelle autre personne et qui n'en a pas.
Deux outils de visualisation sont développés à l'aide du projet GraphComp. La vision stéréoscopique, c'est-à-dire la vision en 3D, et le dôme de visualisation. Ce dernier offre à son utilisateur la possibilité d'un champ de visualisation élargi à 120 degrés. À l'instar de la 3D, ce dôme favorise l'immersion et permet d'agrandir la surface des projections. Au milieu de ce dôme, une nébuleuse de points grandit. Des liens se tissent, les communautés paysannes dévoilent leur structure, l'histoire de la châtellenie de Castelnau-Moratier prend forme. Fabien Picarougne.
Par rapport à ce projet, on a construit des visualisations qui vont justement prendre en compte tout cet aspect perceptif humain, notamment sous deux aspects. On a une visualisation stéréoscopique, on voit avec deux yeux, donc on peut percevoir la profondeur, et donc on a produit des visualisations stéréoscopiques en 3D. C'est de la fouille visuelle et interactive, puisqu'on a de grosses données qui s'étalent de 1250 à peu près jusqu'à 1700. Ce qui intéresse aussi les historiens, c'est de pouvoir analyser la dynamique, l'évolution de ce réseau au travers de ces différents âges. Et donc on a produit une visualisation dans laquelle l'utilisateur, l'historien qui va analyser ces données, va pouvoir parcourir les dates de manière interactive, aller avancer dans le temps, reculer dans le temps, pour voir apparaître les gens, voir comment le réseau social évolue. Et donc tout ça avec des visualisations en 3D pour utiliser les capacités cognitives du cerveau, et également dans des dômes de visualisation qui, là, ont pour but d'élargir le champ de vision humain. C'est un petit peu comme si vous étiez devant un très très grand écran, sauf que ça prend beaucoup moins de place. Et donc on essaie de combiner un peu ces capacités perceptives humaines, le champ de vision élargi et la vision stéréoscopique, pour percevoir ces données dans une application qui est interactive, dynamique. On peut finalement naviguer dans le temps, dans notre graphe, et voir comment les individus interagissent dans le temps ensemble. Au fur et à mesure de l'évolution temporelle, on voit s'organiser en fait des communautés. Et donc on a une organisation spatiale en trois dimensions qui permet d'afficher finalement davantage d'informations qui est très bien perçue en fait par le cerveau humain.
Pour montrer l'intérêt et l'importance de la fouille visuelle, nos collègues américains disent « using vision to think ».
Pascal, Kunz Kosterek.
L'intérêt de ce projet a été multiple. D'une part, nous avons pu répondre à la question initiale, qui était de savoir s'il existait des structures organisationnelles cachées dans les réseaux sociaux que nous avons pu modéliser, puis analyser. Des structurations organisationnelles interprétables par les historiens ont été mises en évidence à différentes périodes de l'espace temporel dans lequel nous travaillons. Nous avons également mis en évidence l'intérêt de la fouille exploratoire, puisque nous avons pu montrer que les restitutions visuelles interactives permettaient de compléter les informations apportées par les indicateurs mathématiques qui permettaient de caractériser certaines propriétés. Et puis, les restitutions visuelles permettent également d'apporter une information à un degré de précision différent que des indicateurs macroscopiques. On a pu voir qu'on était capable de suivre l'évolution des individus dans le temps, qui est plus difficile à faire avec des indicateurs qui moyennisent en fait les choses, qui ont des visions statistiques de l'approche. Et puis, ce projet-là nous a encouragés à poursuivre, puisque à travers ce projet-là et d'autres projets interdisciplinaires auxquels nous avons pu participer, nous avons mis en évidence différents usages d'utilisateurs. Donc, nous avons mis en évidence, d'un point de vue complètement empirique, l'intérêt de la 3D stéréoscopique et des dômes de visualisation. Mais il nous restait maintenant à valider sur des populations plus larges et à une échelle plus grande l'intérêt de ces nouveaux modes de représentation visuelle dans le cadre d'une fouille exploratoire de données complexes. Nous avons construit maintenant un protocole d'expérimentation et donc nous sommes en train de tester l'intérêt de ces modes de restitution visuelle pour la détection de communautés, à nouveau, puisque ce problème-là est un problème vraiment très important pour des spécialistes de différents domaines. En particulier, on connaît l'importance aujourd'hui de l'exploration des réseaux sociaux dont l'essor est considérable. Nos premiers résultats expérimentaux montrent que pour des réseaux complexes, la 3D stéréoscopique, avec sa propriété de profondeur intrinsèque, permet de mettre en évidence des structures qui sont plus difficiles à mettre en évidence avec de la 3D perspective classique, c'est-à-dire sur des supports bidimensionnels. Je complète aussi en disant que ça nous a permis de revoir tout notre apprentissage du Moyen-Âge. Ça a remis en cause tout ce qu'on avait pu apprendre étant petit, puisqu'on s'est aperçu ici que les paysans n'étaient pas nécessairement des serfs très pauvres et tels qu'on les voyait dans l'iconographie de nos livres d'école du primaire.
Monsieur Tuco Guiral, 1247-1277.
Je travaille sur ce secteur-là depuis assez longtemps. C'est assez fascinant de voir vivre, et de voir, on a vraiment l'impression que le cœur des populations bat.
Monsieur Boyer, qui a vécu de 1257 à 1297.